faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Éducateurs, jeunes gens, sportifs de France. Une année s'est écoulée depuis que je m'adressais à vous. Le 31 décembre 1940. Une année où, sous la conduite du chef de l'État, tant d'efforts ont été faits par tant de Français pour le relèvement du pays.
C'était les bons vœux de Jean Borotra, adressé aux sportifs de France le 31 décembre 1941. Commissaire général à l'éducation et au sport, l'ancien mousquetaire, vainqueur de la Coupe Davis, fut un artisan zélé du sinistre projet maréchaliste qui consistait à reprendre en main, par l'exercice physique, le corps de la jeunesse française abîmé soi-disant par l'esprit indolent de la Troisième République. Enjeu crucial pour le gouvernement de Vichy, la pratique et la politique du sport sous l'occupation devaient soutenir le travail, la famille et la patrie. Et alors, à travers cette politique sportive imposée par Pétain, on devine toute l'essence de son idéologie funeste, à savoir sa haine coriace de la République et son désir féroce de purger la France de ses ennemis de l'intérieur. Une histoire que connaissent très bien nos deux invités du soir, deux historiens spécialistes de cette France de Vichy, Marianne Lassu et Éric Alary. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Philippe Collin.
Bonsoir.
Et bien sûr, bienvenue à vous deux. Je suis ravi de vous accueillir. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, l'éducation physique dans la France des années noires.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine, on débute avec un héros oublié, car avant de causer de cette France de Vichy, je voulais commencer avec une archive consacrée à un écrivain sportif résistant, qui est sorti des mémoires aujourd'hui malheureusement, et qui est pourtant l'un des tout premiers intellectuels français à avoir écrit sur le sport, comprenait le sport comme langage. Il s'appelait Jean Prévost, oui voilà son nom, Jean Prévost, né en 1901, mort dans le Vercors sous les balles allemandes en 1944. Voici la pensée de Jean Prévost résumée en 1 minute 30 hein, dans la voix de son biographe Marc Bertrand.
Dès le départ, il a mené de front, en fait, une œuvre sur plusieurs plans, sur son acquis philosophique et sur son acquis culturel. Mais en même temps, il commence à publier des textes tout à fait curieux pour l'époque, de réflexion sur le sport. Mais le sport, non pas en tant que spectacle ou en tant que discipline, plus ou moins du genre scout, mais au contraire, le sport en tant qu'effort de maîtrise de soi. Donc pour lui, le sport, ça fait partie d'une entreprise générale à cette époque, au début de sa carrière, où il essaye précisément de faire le point. D'ailleurs, il le dit dans le texte même, que ce qui l'a intéressé dans cet exercice, c'était à la fois de retrouver certains états de grâce, comme il appelle ça, dans le sport, c'est-à-dire une espèce d'adéquation parfaite entre le mouvement et le plaisir que ça donne. Mais, deuxièmement, et c'est très important, et ça il le dit en 1925, il commence, il a 24 ans, n'est-ce pas, c'est son premier texte, la recherche d'un langage spécifique pour parler du sport, non pas en tant que spectacle, ni en tant qu'exaltation de la discipline sportive, etc., fascisto, machin, mais au contraire, en tant qu'exercice de langage, c'est-à-dire de trouver les termes exacts qui rendent certaines sensations que l'on éprouve à l'entraînement et où l'on accomplit des gestes parfaits, et ensuite au moment du repos. My Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely.
There's nothing left to say.
My God is gonna own me.
There's nothing left to say.
All the good girls go to hell, un titre signé Billie Eilish. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. À l'aube du 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris, déclarées ville ouverte. Le choc est immense, la France est défaite et stupéfaite devant cette armée victorieuse et athlétique. Le 10 juillet, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, excepté 80 parlementaires, dont on ne répétera jamais assez la bravoure. La Troisième République est alors liquidée et aussitôt se met en place le projet maréchaliste. Mais on ignore souvent combien le sport fut un enjeu crucial pour le gouvernement de Vichy. Dès l'été 1940, on nomme un commissaire général à l'éducation et au sport, avec une ligne d'horizon très claire, porté par Jean Borotra.
Jeunes filles et jeunes gens, éducatrices et éducateurs, et vous tous, sportifs de France. Instruire les esprits, a déclaré le maréchal, ne suffit pas pour former les cœurs et tremper les caractères. Il s'agit donc de rendre à la race française la pleine santé physique et morale, de développer en elle le courage et la discipline, en exerçant à la fois le corps, l'intelligence pratique et le caractère. Nous y parviendrons en organisant toute une série d'activités. Séances d'éducation physique, d'initiation sportive et de jeux, chant choral, travaux manuels, hygiène pratique, vie de plein air. Un tel programme fait comprendre que, dans le titre du commissariat, les mots « éducation physique » aient été remplacés par ceux d'éducation générale.
Marianne Lassus, vous êtes historienne, vous avez beaucoup travaillé sur la politique sportive entre 1928 et 1948. On va revenir sur cette politique sportive du gouvernement de Vichy, bien sûr. Mais juste en quelques mots pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs qui était Jean Borotra ?
Alors Jean Borotra, d'abord, c'est un Basque, c'est celui qu'on surnomme le « bounding Basque », le Basque bondissant, célèbre par son béret qu'il faisait virevolter sur les cours de tennis. C'est aussi un polytechnicien X-1920, donc entré par un concours un peu particulier réservé aux anciens combattants, puisqu'il s'est engagé en 1915-1916 pendant la Première Guerre mondiale. De cette formation polytechnicienne, d'ailleurs, il gardera une matrice qu'il utilisera pour organiser son commissariat général à l'éducation générale et au sport. C'est le son qu'on a entendu, hein. Il dit qu'il n'y a plus d'éducation physique, il y a maintenant une éducation générale, donc une espèce de nouvelle matière qu'il va défendre corps et âme, là, une espèce de fourre-tout où il y a
le projet global,
voilà, du sport, mais aussi on a entendu du chant choral, des travaux manuels, du secourisme, du plein air,
du scoutisme un peu,
voilà, l'image un peu du scoutisme. Donc basque, polytechnicien et puis surtout sportif, donc homme d'action. Hein,
c'est un des mousquetaires,
voilà,
évidemment,
des quatre mousquetaires.
Un des grands héros populaires sportifs des années 20, des années 30. Ils ont gagné la Coupe Davis tous les quatre, on le sait. Bon, c'est une des grandes figures sportives des années 20, des années 30. Jean
voilà,
Borotra.
Tout à fait.
Donc il est nommé commissaire général par Pétain. Donc à l'éducation et au sport. Éric Alary, pour Pétain, la France s'est effondrée face à l'Allemagne pour des raisons morales et physiques. Mmh. Il faut bien avoir ça en tête, c'est que le maréchal Pétain veut reprendre en main, par l'exercice physique, le corps de la jeunesse de France.
Oui, comme tout régime autoritaire, la jeunesse est un des piliers de la propagande. C'est aussi par là qu'il veut mener la révolution nationale. Révolution nationale, évidemment, à grand renfort de propagande, en espérant évidemment que les Français adhéreront à cette politique de révolution nationale. Et surtout, dès le début, le maréchal Pétain annonce des moyens colossaux pour mener une politique que le Front populaire avait commencé à mener sous d'autres filigranes, avec d'autres filigranes idéologiques, et il annonce là des moyens considérables. Et puis, il arrive au pouvoir alors que la France, pardon pour le terme que je vais utiliser, est fracassée par la débâcle, par l'exode de 10 millions de Français, de Belges, et en même temps,
l'humiliation.
Et évidemment, il n'aura de cesse de se servir de sa politique générale de la jeunesse, à travers le sport, à travers l'éducation physique à l'école, il n'aura de cesse d'humilier le parlementarisme, de réprouver le parlementarisme, de réprouver tout ce qui est pour lui l'un des défauts de la démocratie, c'est-à-dire la faiblesse physique, la faiblesse du corps. C'est un militaire, c'est le culte du chef. Et pour Borotra, n'oublions pas qu'il était engagé, mobilisé en 1915, il n'est pas aussi militaire que Pascot, mais il a aussi le souci de l'ordre.
Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Oui.
Oui, Jean Borotra, il faut aussi préciser qu'il était, ça a été attesté dans la consultation de la presse de l'époque, il était croix de feu.
Hein, oui. Mouvement d'extrême droite des années 30.
Voilà, Ligue, qui a marché sur Paris au moment des événements de février 1934. Borotra est croix de feu, à l'image d'Ibarnegaray, dont on va reparler ou pas, peut-être, avec qui il arrive dans les bagages en août 1940, juillet 1940, voilà. Donc il y a aussi cette accointance, on va dire, idéologique très forte avec le
maréchal Pétain.
Oui,
Oui, Éric. Juste pour ajouter à ce que disait Marianne, c'est le réseau Pétain qui s'opposera à un autre réseau qui est le réseau Laval. Et effectivement, il est aussi
soutenu sphère du maréchal
par
Pétain.
Végan en même temps. Donc on voit aussi quelqu'un qui est à su s'entourer, qui est un homme de l'ordre.
Alors je rebondis sur ce que vous avez dit l'un et l'autre. Ce qui est important, c'est évidemment qu'il y a la force physique qui doit être là, mais il faut aussi expurger la gueuse, donc la République. Non mais c'est vrai, c'est tout d'un coup, on se dit ce Front populaire, jouisseur, hédoniste, un télo, il y en a ras-le-bol. Donc il faut expurger ça, il faut faire revenir quelque part le corps devant l'intellect. Ça c'est très important dans le projet pétainiste, Marianne.
Oui, tout à fait. Il y a le projet pétainiste, c'est en opposition avec une culture livresque qui est complètement vilipendée par Pétain. Hein, il parle de culture livresque conseillère de la paresse. On retrouve ces accusations portées au Front populaire, le régime du pastis, quelquefois on trouvait aussi dans l'anti-propagande.
On disait le monde de l'apéro, de l'apéro et des congrès. Hein, c'était la France de l'apéro et des congrès.
Voilà. Donc il y a cette volonté de rompre avec le Front populaire et aussi, de manière plus lointaine, avec la Révolution française. La Révolution nationale se substitue à l'héritage de la Révolution française.
Alors un de vos jeux à tous les deux en tant qu'historien, c'est de repérer les ruptures et les continuités. C'est aussi une des vocations de l'historien. Donc rupture et continuité dans le temps qui passe. Ce qui est troublant, on en a déjà un peu parlé, c'est que Borotra, qu'on a entendu là dans ce son d'archives, s'inspire de choses qui viennent de la Troisième République. C'est-à-dire que là, on parle de liquider l'héritage du Front populaire, mais il s'inspire de Jean Zay, il s'inspire de Léo Lagrange. C'est-à-dire que Borotra n'est pas que dans la rupture, il est aussi dans la continuité de la Troisième République. Marianne n'est pas complètement d'accord avec moi.
Oui. Alors moi, je trouve que c'est un peu une historiographie qui a eu tendance à mettre peut-être un peu trop l'accent sur cette continuité, j'allais dire, technique ou technicienne. Mais qu'il faudrait pas oublier que ce projet Borotra, il est complètement inscrit dans un projet pétainiste. Je prends quelques exemples. Le brevet sportif populaire, qui était une invention du Front populaire de 1937, est rebaptisé brevet sportif national. Et je trouve que les mots, là, sont importants. C'est-à-dire qu'il y a bien un héritage technique, mais dans une volonté idéologique complètement différente.
Oui, mais ce qui peut être un peu agaçant, c'est d'entendre un désir de liquider la culture livresque, le Front pop, etc. Néanmoins, à l'époque, déjà, on connaissait l'utilité publique du sport. C'est-à-dire que c'est là où, tout d'un coup, ils ont bonne figure. C'est qu'ils disent, regardez cette espèce de régime feignasse. Mais en fait, c'est pas vrai. Jean Zay sait que le sport est important pour la jeunesse de France. Et donc, ils ont quand même détourné cette valeur-là.
Ils ont compris que la massification, la popularisation du sport était vitale à une époque où s'était développée la radio, notamment, mais aussi les actualités cinématographiques. Donc c'est un super relais pour la propagande vichiste. Borotra, cela dit, germanophobe, et contre les méthodes coercitives qui étaient utilisées En Italie.
Il n'est pas pro-allemand du tout.
Pas du
ni,
tout.
Ni pro-collaboration d'ailleurs.
On ne peut pas dire que quelque part il est pour une jeunesse unique. Mmh. Il va même rendre hommage. Alors là c'est peut-être un artifice, Marianne peut-être pourra nous préciser mieux que moi, mais il va citer Lagrange. Il va m'inviter Madame Lagrange à un moment en rendant hommage à celui qui était. En revanche.
On redit qui était Léo Lagrange rapidement, Marianne.
Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État à l'Organisation des loisirs et des sports 1936.
Fond pop, hein,
voilà. Fond pop, il rend hommage quand même au Léo Lagrange mort en juin 40.
Voilà.
Au héros, au jeune héros,
mort au champ d'honneur, et en même temps, il ne citera jamais Janzé dans tous ses discours, qui passe pour juif.
Oui, qui passe pour juif, et hors de question de citer un type qui passerait pour juif, évidemment, pour Borotra, évidemment. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va faire monter les heures hebdomadaires au lycée ou au Collège de France, donc on passe à 9 heures par semaine, hein, je crois, sur Borotra, on fait 9 heures par semaine de sport pour les gamins, donc on fait plus de sport à l'école. Il y a aussi le serment de l'athlète, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que le serment de l'athlète, Marianne? On sait ce que c'est, ça?
Le serment de l'athlète, il a été instauré lors de la fameuse tournée Borotra, qui était aussi une tournée de propagande, qui s'est déroulée en avril-mai 1941 en Afrique du Nord, en Maroc, Tunisie, Algérie, où il y avait plus de 106 sportifs. Les meilleurs sportifs de l'époque ont accompagné Borotra en tournée. Et en fait, cette tournée, qui était une tournée de propagande et aussi de propagande envers les départements, les colonies françaises, on va dire, notamment l'Afrique du Nord, c'est lors de cette tournée qu'a été instauré ce fameux serment dans lequel donc l'athlète promet de pratiquer le sport avec désintéressement et
pour être meilleur pour sa patrie. Voilà, donc, c'est bien ça.
Ça fait partie des grandes messes pétainistes, hein. C'est le sport patriotique, c'est le sport loyal, c'est le sport de l'honneur, du désintéressement. D'ailleurs, quelquefois, on voit bien qu'il y a un discours un peu coubertinien, dans ce qu'il dit. Désintéressement, donc, évidemment, il attaquera le professionnalisme.
Alors, donc, il y a un projet pétainiste de l'homme nouveau, de l'homme régénéré, de l'homme fort, de l'homme physique. Alors, on pourrait penser que c'est l'occupation, c'est une période compliquée. Or, on regarde les chiffres et on s'aperçoit qu'en effet, les licenciés sportifs augmentent en France. Il y a plus de sportifs en France sous l'occupation. Donc, c'est intriguant. Et la question se pose, est-ce que la France adhère à cette idéologie de l'homme nouveau, ou est-ce que la France fait du sport parce qu'elle est sous pression d'une occupation allemande et que c'est un endroit de convivialité, de rencontre? Les corps sont amaigris, on n'a pas de chaussures, enfin, c'est une période compliquée, mais néanmoins on fait plus de sport en France entre 40 et 44. Pour quelle raison, Éric Allary?
Oui, vous dites qu'on perd du poids, on perd de la taille. Je crois que pendant la guerre, les garçons, les filles ont perdu 7 à 8 cm.
Exactement.
Par rapport à 1930.
À la Libération, les garçons font 8 cm de moins qu'en 39.
Kilos. On demande aux enfants de passer de 5 à 9 heures de sport par semaine. Des semelles qu'on appelait les semelles flex, qui étaient des semelles de bois. Il n'y a pas de cuir. Là, le cuir est réservé à l'armée allemande. Il n'y a plus grand-chose dans les assiettes. Et en plus, à partir de 1941, l'opinion française commence à se détacher de Vichy. Mais, malgré tout, Vichy persévère pour Borotra, puis ensuite Pascro persévère dans cette voie-là. Il y a des plaintes de parents. Les parents écrivent. Notamment au ministère de l'instruction publique, de l'éducation nationale et de l'instruction publique, pour dire, voilà, ça suffit, il n'y a pas de beurre dans les épinards, on mange du rutabaga, et vous demandez aux enfants,
de faire du
qui
sport.
Au bac, qui au brevet, de faire plus de sport. Et ça va poser, évidemment, beaucoup de problèmes. Cela dit, le nombre de licenciés va... Alors ça, c'est en dehors des écoles, le nombre de licenciés va augmenter. Peut-être parce que aussi beaucoup de sportifs se disent, après tout, le sport est apolitique, c'est un moyen aussi de se détendre, comme aller lire au chaud près d'un poêle à la poste,
ou
à la bibliothèque.
D'aller au cinéma.
C'est chauffé. Voilà, le théâtre et le cinéma semblent moins neutres politiquement que le sport.
Et c'est censuré par ailleurs.
Voilà, et le sport est aussi, on en parlait hors antenne, un lieu de rencontre.
Un lieu de...
De drague même, il faut
de sociabilité,
dire.
Notamment entre les filles et les garçons,
c'est
qui peuvent
important,
se rencontrer.
C'est presque, ce qui peut être assez intéressant, c'est presque réfractaire par rapport au projet de Borotra. C'est-à-dire qu'on va au sport un peu en loose day pour aussi rencontrer les filles et les garçons.
Oui. Il n'y a pas de balles, il n'y a plus de Tour de France, on ne peut plus chasser. Donc dans les villages, il faut bien se rencontrer entre filles et garçons, il faut bien trouver des espaces de sociabilité. Et le sport en fait partie, puisque le sport féminin se développe beaucoup pendant cette période également. C'est-à-dire, vous avez parlé de l'augmentation des licences, une grande part de cette augmentation est due justement à la naissance presque ou l'amplification du sport féminin. Donc les filles et les garçons, moi j'ai eu l'occasion d'interroger des sportifs qui avaient pratiqué sous l'occupation, disaient que c'était aussi un moyen de se rencontrer, un moyen aussi de manger à sa faim, parce que l'obsession du manger dans le pendant l'occupation, elle est réelle.
Elle est essentielle, elle est permanente.
Elle est permanente.
On a faim tout le temps.
Voilà, on a faim tout le temps. Mmh. Et quand on fait du sport, bah, quelquefois, on a un filet garni en termes de récompense, ou on a un bon repas à l'issue du match de rugby.
C'est mieux qu'une coupe?
Oui,
c'est mieux qu'une coupe. Voilà, oui, exactement.
Bien sûr.
Voilà. Donc il y a plein de témoignages de sportifs. Marcel Ansen, par exemple, un grand athlète français qui dit qu'il court et que ça lui, qui peut manger du beurre à sa faim, enfin qui peut manger à sa faim. Donc c'est aussi pour ces raisons-là, quelquefois très très matériel, que l'on fait du sport. Voilà.
Comment les Allemands interfèrent, surveillent, interagissent avec cette politique de Vichy? Comment ils regardent ça, les Allemands?
Au début, ils regardent Borotra avec méfiance. Et ils vont le regarder avec méfiance jusqu'au bout, puisqu'ils l'arrêteront, le déporteront. Mais les Allemands se méfient au départ, parce qu'ils craignent qu'à travers le sport, Vichy n'engage de façon masquée une politique de remilitarisation du pays, c'est-à-dire de mise en forme de futurs soldats, comme cela a pu se faire. La montée du fascisme, la montée du nazisme est due souvent à des clubs de sport, des clubs de tir, notamment en Italie.
Et en
donc,
Allemagne.
Ils ont cette crainte-là. Et assez rapidement, les Allemands sont rassurés. Donc, ils vont surveiller. Guerre
et
plus qu'un, ils savent que c'est un moyen anesthésiant,
voilà,
comme le théâtre et le cinéma, sur des Français qui, quand même, ont subi un grand nombre de traumatismes. Et après tout, ils veulent faire de la France un exemple d'occupation, entre guillemets, réussie.
Alors, Jean Borotra incarne la première époque de Vichy, hein, 40-42. Un homme assez complexe, Borotra, parce que finalement, il va se faire écarter en 42 quand Laval revient aux affaires. Et puis, il va vouloir s'échapper en Afrique du Nord. Et puis, il va se faire arrêter et puis donc déporter en Allemagne comme résistant. C'est un personnage un peu complexe sur la seconde partie de l'occupation, Marianne Lassus.
Oui, voilà, sur les raisons de son arrestation, notamment, je crois, en novembre 42 à Austerlitz, c'est assez complexe, assez nébuleux. On avait l'impression qu'il avait un peu claironné son départ en Afrique du Nord. Donc quand il se fait arrêter à Austerlitz, on avait l'impression que tout Paris était au courant.
Au courant qu'il fuyait.
Voilà. Donc voilà, c'est disons que cette arrestation est un peu, on va dire, attendue en quelque sorte. Et puis donc il est pour autant déporté, bon, interné à ITER, hein, qui est un peu la forteresse où étaient internés plusieurs
y compris ses ennemis politiques,
voilà, oui, plusieurs représentants
du gouvernement de Pétain, voilà, mais première époque, on
ouais,
va dire,
c'est ça. Et puis après il refait surface il rejoue au tennis, et puis il refera même surface après plus tard avec Herzog, mais ça sera sous la Ve République.
Exactement, et ça on va en reparler tout à l'heure, parce que ça c'est la première partie de l'occupation, hein, 40-42, la première partie du maréchal Pétain. Il y aura une seconde partie qu'on va évoquer juste après le disque. Pour l'instant, les 18h33 sur Inter. On va continuer à causer de la pratique et de la politique du sport sous la France de Vichy, juste après le retour de l'orchestre, emmené cette fois par Jacques Hélian, avec une des chansons phares de la Libération, Fleur de Paris. C'est le son de l'époque. Après 4 années noires, c'est le retour des beaux jours. Ainsi soit-il.
Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir.
Le percepteur l'a conservé dans son tiroir.
La fleur si belle. Le
pharmacien la dorlotait dans un bocal.
L'ex-caporal en parlait à l'ex-général.
Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour.
Garder ses couleurs,
bleu, blanc, rouge.
Avec l'espoir elle a fleuri.
C'est une fleur de Paris. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout.
Car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours.
Paris.
tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Faucheton, la brochette de Sacré Cochon, de Paul Marion à de Brinon, d'Arnand, Doriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain: y a-t-il des salauds parmi nous?
Tous, tous, tous!
Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain.
Ces fils de Pétain, moqués par le génial Pierre Dac sur les ondes de Radio Londres, ont durci la politique du gouvernement de Vichy à partir du mois d'avril 1942 avec le retour aux affaires de Pierre Laval. Et le sport n'a pas échappé à ce tour de vis supplémentaire. Jean Borotra a été écarté du commissariat général à l'éducation et au sport car jugé pas assez pro-allemand. Et il a été remplacé par un militaire, un homme à poigne, le colonel Pascot, avec une vision très personnelle de ce que devait être le sport.
Le sport n'est pas seulement un dérivatif, une évasion, un divertissement pour la masse, une spécialité pour champion. C'est le lieu et le rassemblement des énergies vitales d'un pays. Ainsi, dirons-nous à notre tour, le sport est autant que les arts, une langue vivante, entendue de partout, comprise par tous. Chaque pays lui donne son accent particulier et se trouve naturellement fier qu'il soit distinct de celui des autres. Les rivalités les plus légitimes, les orgueils nationaux les moins blâmables, naît grâce au sport la certitude d'une amélioration générale de l'espèce. L'athlète en soi est un chef-d'œuvre, mais il n'est pas tel sans que toute une foule ait contribué à le façonner. Et il sait qu'il l'incarne. Il représente la fleur suprême d'une sélection à travers laquelle un peuple entier se manifeste et se proclame.
Toute une ambiance et un ton. Marianne Lassus, je rappelle, vous êtes historienne. Donc ce Pascot est colonel de l'armée française. Il a donc remplacé Jean Borotra. En quelques mots, pareil, d'où il sort? Qui est ce colonel Pascot?
Oui, le colonel Pascot, donc c'est le second commissaire. Il est beaucoup plus falot en termes de réputation que son prédécesseur, hein, même s'il a une carrière. Donc c'est un rugbyman à 15, c'est un 15iste. Il a été 6 fois sélectionné sous le maillot de l'équipe de France. Il a avec son équipe de Perpignan soulevé 2 fois à 2 reprises le bouclier de Brennus.
Donc champion de France.
Voilà. Mais c'est avant tout un militaire, donc beaucoup plus falot. Même si on le voit, il est omniprésent dans la propagande de l'époque, où on le voit très très dans une allure plutôt de séducteur, avec une moustache un peu à la Clark Gable, des costumes toujours très propres sur lui. On sait qu'il était assez qui plaisait pas mal à la gente féminine, mais voilà, il était déjà présent d'ailleurs avec l'équipe Borotra dès septembre 1940. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, lui c'est pas le même réseau, c'est le réseau clairement de Pierre Laval. Les services allemands, lorsqu'ils le présentent, disent que c'est l'ami du gendre de Laval, en l'occurrence de René de Chambrun, qui joue au rugby comme lui et qui ils ont écumé les mêmes terrains sous le maillot du Stade français à la fin des années 20.
Éric Alary, historien, vous aussi.
La presse de la collaboration se réjouit d'ailleurs de la nomination de Pascot, même si dans le journal officiel de l'État français, il y a une erreur. Le 19 avril 1942, Pascot est orthographié AUD à la fin au lieu de OT.
OT, oui.
Donc c'est déjà quelque chose qui a dû beaucoup le vexer. Oui. Parce qu'ensuite, il va courir après les photographies. Ouais. Il est photographié dans la revue EGS de façon permanente, avec le maillot de rugby, avec le ballon de rugby. Il se vante d'être l'homme le plus photographié de France. Il y a une hyper-personnalisation d'un homme qui est un combattant aussi, qui a combattu dans la guerre du Rif, dans les années 30, et qui aussi veut militariser toute l'administration des sports et de l'éducation physique en France. Il ne veut pas déléguer.
Donc là, pour bien comprendre, on avait Borotra qui est la phase 1, on va dire, du pétainisme en France. On passe à la phase 2 avec Pascot, donc c'est un durcissement. On a pu sentir donc la haine républicaine dans la première partie. La seconde partie avec Pascot vient donner le second pan de l'idéologie pétainiste, c'est-à-dire qu'on va chercher finalement à épurer le milieu sportif. Avec eux, on va durcir la chasse aux juifs dans le milieu sportif, on va durcir la chasse contre les communistes. On s'aperçoit finalement que la France n'adhère pas forcément à ce projet de l'homme nouveau. Donc la situation, c'est quoi? C'est d'espérer, dans une espèce de fantasme pétainiste, de purifier le monde du sport, Éric Alary.
Oui, il évoque, ça fait toujours peur, l'homme nouveau, dans toutes les idéologies totalitaires. Alors, ça n'est pas totalitarisme, Vichy, c'est un autoritarisme politique, une dictature autoritaire. Mais il espère, effectivement, épurer, comme vous le dites, Philippe Collin, le sport français. Alors, il ne fait pas le ménage, on va dire, anti-juif dans le milieu du sport, mais ils sont contents d'appliquer, tout simplement, les deux statuts anti-juifs d'octobre 1940 et de juin 1941. Et ils ne feront absolument rien. Quand je dis ils ne feront, Pascot et tous ces séides ne feront absolument rien lorsque l'étoile juive sera imposée au mois de juin 1942, lorsque les stades seront interdits aux juifs en tant que spectateurs ou en tant que sportifs.
Le grand exemple de cette chasse, c'est Alfred Nakache, qui est donc le grand champion français de natation, qui a donc été dénoncé par un de ses collègues, d'ailleurs, et donc en août 43, ou à l'été 43, je crois. Et donc Nakache va incarner finalement cette épuration sportive par le gouvernement de Vichy. Il y a aussi l'épuration syndicale. Il y a la grande FSGT, qui est la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, qui est donc une grande fédération humaniste des années 20, des années 30, qui a développé le sport comme vertu démocratique. Et il y a donc un président, Auguste Delaune. Que lui arrive-t-il, Auguste Delaune, sous l'occupation, Marielle Massu?
Alors, il est déporté, mais je voulais revenir aussi sur une autre fédération, qui est l'UFOLEP, qui est donc une fédération liée à la Ligue de l'Enseignement, et qui, sous prétexte d'épuration aussi de la franc-maçonnerie, est-elle dissoute aussi en juillet 1942. Donc Auguste Delaune, voilà, donc l'un des dirigeants de la FSGT, lié au Parti communiste, résistant, et déporté. Et il y a un stade qui porte son nom, d'ailleurs.
Football.
Voilà, stade de football. L'histoire de la FSGT, c'est un peu complexe, puisqu'en fait, elle y est liée en deux. Il y a une partie de la FSGT qui collabore, et puis l'autre partie qui entre dans la résistance, notamment avec l'un des seuls, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, réseau de sportifs résistants identifiés par les historiens, qui s'appelait le réseau Sport Libre, auquel justement a participé de manière très active Auguste Delaune,
qui va donc mourir torturé, quand même, sous la prise de Gestapo.
C'était en lien donc avec la résistance communiste, mais dès le début de la guerre, la FSGT est gênée, parce qu'on voit bien qu'il y a un clivage entre ceux qui doivent condamner le pacte germano-soviétique, d'autres qui ne veulent pas le condamner.
C'était le vrai problème, le pacte germano-soviétique.
Du communisme entre 39 et 41.
Absolument. On a commencé à évoquer le mot résistance. C'est vrai que le milieu sportif n'a pas résisté en tant que milieu, mais plutôt en tant qu'individu. Il y a des résistants sportifs, voilà, de manière individuelle. Il n'y a pas très peu, finalement, de réseaux sportifs de résistance. Néanmoins, il y a quelques grands moments sous l'occupation. Notamment, il y a un match de boxe à l'automne 42 au Veldiv. Marcel Cerdan vient affronter Ferrer, qui est un boxeur espagnol, franquiste, frappé d'une croix gammée sous le peignoir. Il va battre Ferrer en 83 secondes, il va l'éclater, comme on dit. Et il se passe un truc, là, au Veldiv. On va chanter la Marseillaise pour la première fois sous l'occupation, à Paris, parce que c'est interdit. Et du coup, on comprend aussi mieux l'ampleur de Marcel Cerdan, y compris dans l'après-guerre. C'est que Cerdan est venu apporter, en tant que sportif, une joie immense aux supporters parisiens.
Et ça se passait quand même au Veldiv.
Au Veldiv, quelques semaines après la rafle.
C'est ça. Ce qui montre aussi que les enceintes sportives, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas épargnées, ne sont pas en dehors, ne sont pas apolitiques, puisque c'est bien dans une enceinte sportive que s'est déroulée la rafle de juillet 1942.
Absolument, un vélodrome d'hiver. Donc on dit Veldiv, ça veut dire vélodrome
même temps,
d'hiver.
C'est un moyen pour l'opinion de s'exprimer contre une politique de Vichy complètement absurde, contre le pillage, etc. En parlant des résistants, je pensais à Simone Mathieu, qui a rejoint la France Libre et qui a essayé de défendre le sport. Mais on peut reconnaître que la France Libre ne s'intéresse pas beaucoup au sport. Quelqu'un comme René Cassin ou d'autres à Londres ne sont pas des sportifs, ne s'intéressent pas du tout au sport.
Est-ce que il y a des sports interdits sous l'occupation, par exemple le tir, on voit bien pourquoi, la voile également, parce qu'on imagine qu'on peut s'enfuir par les côtes bretonnes ou basques. Et puis le rugby à 13. Il est interdit, le rugby à 13. Pour quelle raison il est frappé d'interdiction, ce rugby à 13?
Pascot est un homme du 15, comme l'a dit Marianne Lassu.
Rugby à 15.
Rugby à 15. Et il y avait un sport qui, je crois, était plus populaire que le rugby à 15, c'était le rugby à 13.
Très populaire à l'époque.
Voilà. Mais qui était considéré par une partie des turérifères vichistes, idéologiquement très à droite, comme ouvriériste, comme de gauche, avec un rugby, alors je dis ça, c'est peut-être un peu simpliste, mais un rugby à 15, qui est le sport porté par Pascot, qui est aussi en déficit de notoriété, qui clairement par rapport à Borotra est sans arrêt en train de courir pour rattraper une notoriété. Et ça va aller très très loin, ça a été étudié par l'un de nos collègues, ça a été très très loin puisqu'il y a eu une confiscation des biens du 13 par le 15.
Et une interdiction de jouer à 13.
De jouer. Et Marianne, on peut le dire en étant un peu trivial, aux yeux de Pasco, c'est un île gauchiste, le rugby à 13.
Voilà, c'est un île gauchiste. Et comment c'est justifié, cette interdiction du 13 ? C'est toujours justifié par ce discours moralisateur de « on condamne le sport professionnel hein, ». C'était dit dans les leçons qu'on a entendues, hein, on ne doit pas faire un athlète spécialiste, un athlète champion. Hein, donc on
doit être amateur.
Voilà, donc au nom de l'amateurisme très moralisateur, très coubertinien, on condamne les sports professionnels, donc on condamne finalement aussi le sport ouvrier, parce que le fait de pouvoir rémunérer ce qu'on appelait à l'époque le manque à gagner, c'est-à-dire que les sportifs devaient se déplacer, donc ne pas travailler, prendre du temps pour s'entraîner, donc il y avait une forme de rémunération qui pouvait être prodiguée, ça c'est interdit, et ça c'est quand même cette vision élitiste, aristocratique du sport que portait aussi Jean Borotra, hein, dans cette élite, cette vision très, très élitiste et aristocratique, voilà. Et donc opposé à la vision ouvrière et professionnelle.
Éric Alary, on imagine qu'aux yeux du militaire maréchal Pétain, un des modèles fantasmés a été le sportif nazi ou le sportif fasciste italien dans la régénérescence de la France. Mmh. Or, on s'aperçoit qu'en réalité, la France n'a pas adhéré à ce projet. C'est-à-dire que les Français, de manière très majoritaire, n'ont pas du tout été fascinés par ce projet de l'homme nouveau et du sport pour régénérer la France.
Oui, c'est la différence entre l'autoritarisme et le totalitarisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans l'Italie fasciste, au Portugal aussi, dans l'Allemagne nazie, l'idée est de former des corps pour l'expansion guerrière, en vue de l'expansion guerrière, en vue de la conquête pour les nazis, du Lebensraum, de l'espace vital. C'est pas le cas, hein, du tout, du côté de Vichy qui, rappelons-le, quand Pasco arrive au pouvoir, est pris dans un engrenage de concessions toujours plus importante face aux nazis, au moment des choix antisémites, etc., etc.
Alors à la libération, il y a donc l'épuration, hein, l'épuration donc du système, des collaborateurs, de l'État français. L'épuration du milieu sportif, on peut pas dire qu'elle ait été très très forte, Marianne Lassus. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés à travers les mailles du filet dans cette histoire.
Oui, alors à l'exception de l'administration, de la nouvelle administration de l'éducation générale et des sports qui est mise en place pendant cette période que j'ai un peu étudiée de manière un peu plus détaillée dans ma thèse, où là les nouveaux inspecteurs recrutés, clairement, ils avaient été recrutés justement pour faire concurrence à l'éducation nationale. Hein. Ce nouveau corps, c'était aussi pour contrer l'université responsable de tous les maux. Donc cette épuration des inspecteurs, elle est réelle par rapport à d'autres fonctionnaires, mais pour les dirigeants sportifs et pour nos deux entre guillemets commissaires, je sais pas si tu veux y revenir, Eric, mais voilà, il passe complètement entre les mailles du filet.
Borotra est laissé tranquille, il revient de déportation.
Il a une carte de quasiment
quelques
de résistant.
Années après, quelques années après, ce qui a scandalisé quand même beaucoup de résistants, la carte de résistant
accordée à Borotra.
Ouais. Accordée à Borotra. Pasco, quant à lui, il passe quand même sous les fours de l'épuration, puisqu'il est condamné à 5 ans de bannissement, à la privation des droits civiques, mais cette condamnation a été rapidement annulée car elle a réussi à justifier des activités résistantes. Et pendant la guerre, il n'est photographié qu'une seule fois, ma connaissance, avec les Allemands, en 1943 lors d'une cérémonie, et très facilement il dit, de toute façon, c'était en zone occupée ou dans l'ancienne zone occupée, je n'y pouvais rien, mais je n'ai jamais fricoté avec les Allemands.
Oui. Mais Marianne Lassus l'évoquait dans la première partie de l'émission, il va quand même ressurgir sous la cinquième, puisque Maurice Herzog va être décrété ministre des Sports par De Gaulle, pour relancer justement la politique sportive en France, après des Jeux Olympiques de Rome dramatiques, qu'on appelle Borotra, et donc, on appelle Herzog, pardon, et donc Borotra va revenir comme conseiller d'Herzog, c'est quand même une sorte de, c'est assez étrange de le voir revenir Borotra sous la Ve République.
Oui, il fait partie des conseillers dans l'essai de doctrine du sport, notamment. Donc, il est une voix écoutée pour la rénovation du sport. Et alors qu'à la même époque, il est aussi l'un des principaux dirigeants de l'association de défense de la mémoire du maréchal Pétain. Mm-hmm. Hein, il ne reniera jamais à la fois ce maréchalisme, mais aussi ce pétainisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est il admire le vainqueur de Verdun, mais il est aussi, on l'a bien expliqué, je crois, ce soir, il est aussi adhérent à l'idéologie
de la Révolution nationale. Bien sûr.
Mais son parcours ressemble à d'autres parcours, celui de Benoît Méchain, qui est condamné à mort, qui était quand même un admirateur du nazisme, qui va faire une troisième vie après la guerre et qui sera le conseiller des présidents de la République, la quatrième et la cinquième, pour les affaires orientales. Le commissaire Weber, qui a fait arrêter cette jeune communiste condamnée à mort au Palais Bourbon, dont on a parlé récemment, a été décoré de la Légion d'honneur et pas les sept résistants communistes. Donc ça fait partie aussi d'une histoire de l'après-guerre.
Oui.
L'épuration a été faite. Dans le milieu du sport, c'était sûrement des endroits où elle a été la moins puissante, pourrait-on dire. Mais globalement, Henri Rousseau l'avait très bien montré dans ses articles et ses travaux sur l'épuration.
Grand historien.
L'épuration a été faite, mais mal.
Voilà, dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Revenons à votre je sais pas comment appeler ça, mais votre binôme de rupture continuité. Est-ce que la 4e République va également un tout petit peu endosser un héritage de Vichy par rapport à la politique du sport? Je crois savoir par exemple que le sport au baccalauréat, c'est un acquis de Vichy qui va être continué sur la 4e République. Si je dis des bêtises, Marine, ou pas?
Non, l'épreuve physique au baccalauréat est instaurée en 1941, d'abord comme facultative.
Mm-hmm.
Donc c'est bien une invention de Vichy. On a aussi la mise en place des centres régionaux d'éducation générale et sportive qui donneront les CREPS, qui existent encore.
Toujours aujourd'hui, bien sûr. Ça, c'est inventé par Vichy.
Oui.
Donc il y a une petite reprise, il y a une sorte d'héritage qui est un peu repris quand même par la 4e République.
Vichy, c'est aussi la médicalisation scolaire, c'est-à-dire les médecins scolaires, pour voir l'état des corps qui était mauvais, d'ailleurs à la fin de la guerre. C'est aussi définitivement l'introduction de l'éducation physique à l'école, avec beaucoup plus de moyens. C'est-à-dire que là, on a franchi un cap en termes de moyens. Vichy a mis en 1940 2 milliards de francs sur la table, au lieu de 400
énorme.
Millions de francs
énorme,
en 1938, sur la table pour... Et ça, après la 4e et la 5e République, utiliseront toujours beaucoup de moyens pour mener à bien cette politique de la jeunesse, du sport, l'éducation physique, qui est un des piliers de la réussite d'un État.
C'est vrai que, pour terminer, une question pour vous deux, rapidement, on voit que le sport a des valeurs humanistes, de partage, de fraternité, elle peut être aussi détournée, cette valeur, par un régime autoritaire, ce qui était le cas de Vichy. On peut penser que même très longtemps après-guerre, en France, ça a continué à poser un problème. C'est-à-dire que cette récupération par Vichy du sport a toujours posé un problème, puisqu'il n'y a pas si longtemps, aux intellectuels français. On se méfie un peu du sport quand même, parce que Vichy était venu mettre ses grosses pattes dessus quand même, non Marianne?
Et oui, c'est bien dommage, parce qu'on a entendu, pour revenir au premier son, le son de Jean Prévost, le sport c'est aussi, ça peut être du plaisir, hein.
Le
plaisir des sports, c'est le titre de l'ouvrage de Jean Prévost. Le Front Populaire le voyait comme ça d'ailleurs, comme un objet, le sport comme un moyen d'émancipation. Et je voudrais reprendre une citation d'un historien très célèbre, puisque c'est lui qui a permis de faire la lumière sur ce qu'a été Vichy. Lui, donc je veux parler de Paxton.
Robert Paxton. Historien américain.
Oui. Donc il dit, pour le Front Populaire, le sport est un droit. Pour Vichy, il est un devoir. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit que voilà, le sport, il peut être aussi un droit et un facteur d'émancipation, de plaisir.
Et ben, on terminera sur cette obligation. Magnifique citation de Robert Paxton. Merci à vous d'être venus ce soir. Je rappelle que Éric Allary est l'auteur de La Nouvelle Histoire de l'Occupation chez Perrin, livre passionnant. Et on peut également lire La Politique du Sport en France pendant l'Occupation, sous la direction de Jean-Pierre Azéma, et dans lequel vous trouvez des articles signés de Marianne Lassu et d'Éric Allary. C'est publié par l'INSEP. Merci beaucoup à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien ça faisait longtemps, hein. Alors on commence par un big up aux footballeuses espagnoles en passe de gagner leur bras de fer avec leur club des syndicats, auxquels elles demandent tout simplement, hein, un salaire minimum de 16 000 euros par an. Donc ça, c'est pour un contrat à temps complet. Et elle demande aussi l'instauration de contrats à temps partiel d'au moins 3 quarts temps. Parce qu'il faut savoir qu'avant, vraiment, elle jouait encore moins que ça. Donc pas la mer à boire, hein, me direz-vous. N'empêche que pour ça, elles ont dû se mettre en grève le week-end dernier, parce que ça faisait plus d'un an que les négociations étaient gelées. Alors je vous parlais il y a quelques temps des footballeuses australiennes qui ont obtenu l'égalité salariale avec leurs homologues masculins. Côté Espagne, on n'en est pas à ce point-là, mais petit à petit, les choses avancent, c'est déjà beau, bravo.
Et oui, et amplement mérité pour c'est ces ça. Footballeuses espagnoles. Foot toujours, Joy, en Italie cette fois.
Oui, voyage en Italie,
et oui.
Petit hommage à Lillicube, où l'entraîneur des moins de 18 ans du club italien d'Invictus Auro, Massimiliano Riccini, a été limogé après avoir remporté un match 27-0
Et oui.
Samedi dernier. Et alors, le président d'Invicta Sauro n'a pas hésité, jugeant que planter 27 buts à une équipe junior, ce n'est pas du sport. Voilà. L'adversaire doit toujours être respecté, et aujourd'hui, ce ne fut pas le cas. Bon, l'entraîneur, lui, a justement argué que ce qui aurait été irrespectueux, c'est justement de faire tourner le ballon et d'arrêter de jouer. Voilà, ça c'est plutôt mon avis. Mais tant pis, ciao Riccini.
Et oui, ciao, une drôle de décision en effet, coach limogé. La suite, Joy.
Du basket et de la politique. Cette semaine est sortie sur les internets, comme on dit, une vidéo de Bernie Sanders, le candidat démocrate à l'investiture, où on voit l'homme de 78 ans mettre panier sur panier. Voilà. Alors peut-être a-t-on trouvé le digne successeur d'Obama. Enfin, au moins sur un terrain.
Au moins sur un terrain. La vidéo est assez amusante. Et sinon, jeudi soir, tu es allé chez Valzac, aux Sportifs Réunis, un restaurant dans le 15e arrondissement de Paris.
Oui, un resto entièrement dédié au sport et follement décoré. Je vous conseille d'y aller. J'y suis allé parce que c'est là que se tenait la remise du prix Jules Rimet 2019. Je vous rappelle, le prix sport et littérature, prix attribué à, roulement de tambour, on n'en a pas, mais on le fait quand même, Fanny Wallendorf, pour son livre « L'appel », dont vous avez déjà parlé ici. Alors, « L'appel » est disponible aux éditions Finitude et bientôt en poche chez J'ai lu. Sautez dessus.
Et oui, Fanny Wallendorf, que nous recevrons dimanche prochain justement dans l'émission pour parler de Dick Fosbury. Vous verrez, elle est passionnante, cette Fanny Wallendorf. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel de la semaine.
Eh bien, cette semaine, il s'agit d'un très très beau documentaire de la collection Sport Reporter, l'émission de grands reportages sportifs de Canal+, consacré à la rivalité entre les pilotes de F1 Jacques Villeneuve et Didier Pironi en 1982. Et c'est un doc que vous pouvez voir en replay sur le site MyCanal. Ça s'appelle Rouge Sang, donc. Alors pour être honnête, moi, cette histoire, je ne la connaissais pas, mais quelle histoire! Tout est romanesque. En ces deux hommes de la Scuderia, comme on dit, Ferrari. Villeneuve, Pironi, un Québécois et un Français qui ont tant de points communs et d'ambition que leur amitié, en fait, sera impossible. Pironi était vraiment prêt à tout pour être champion du monde, enfin jusqu'à ce Grand Prix d'Allemagne en 1982.
Un nouveau drame dans la compétition automobile de Formule 1. Didier Pironi ne sera pas champion du monde cette année. Le jeune Français qui est en tête du championnat du monde a eu un accident ce matin, un accident très grave, pendant les essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim.
Il pleuvait beaucoup, vous le savez, la visibilité était pratiquement nulle. Didier Pironi, qui arrivait très vite à vue d'Ali, dépassé Prost, mais il n'a pas distingué, en raison justement des gerbes d'eau, la Renault de son compatriote. Les secours sont arrivés assez rapidement, mais ils ont mis un certain temps, on parle de 20 minutes, pour dégager Pironi, qui était donc tout à fait conscient, qui a lui-même enlevé son casque.
Après 20 minutes d'effort, Didier Pironi est transporté par hélicoptère à l'hôpital d'Heidelberg, où l'on diagnostique une double fracture des jambes et du bras gauche.
Voilà. Alors Pironi et Villeneuve, un grand duel du sport automobile des années 80. Souvent, le sang et les larmes vont de pair avec la passion. Passion qui faisait vivre ces deux grands champions.
Rouge sang, donc, c'est le titre de ce documentaire exceptionnel de la collection Sport Reporter réalisé par Jean-Marie Goussard, à voir gratuitement, oui gratuitement, c'est important de le redire, sur MyCanal. Merci Joy, et à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et merci à François Audouin qui était aux manettes ce soir. Merci François, assisté de Julien Dumont. Merci à Julien, merci à vous deux, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. On se retrouve dimanche prochain avec le récit d'un destin hors norme, celui d'un destin américain qui a révolutionné son sport, Dick Fosbury, l'homme qui a sauté dos à la barre au JO de Mexico. Geste considéré comme capitaliste par les soviétiques, oui. Vie et destin de Dick Fosbury, soldat malgré lui de la guerre froide. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.